soir de commencer la méditation de ce magnifique livre de Jonas. Il y a quatre chapitres. Les quatre chapitres intéressants. C'est un livre très court. Vous pouvez le lire avec loisir à la maison, bien sûr, mais c'est surtout les leçons spirituelles qui parcourent le temps. Parce que le livre de Jonas a pour thème la miséricorde divine. Parce que dans ce livre, il y a une leçon extraordinaire de nous rappeler que le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de la miséricorde. Souvent, nous l'oublions. Parfois, nous sommes très durs vis-à-vis des uns des autres. Et Dieu va donner la leçon à Jonas, que c'est un Dieu de miséricorde. Non seulement il a été miséricordieux pour lui, il a été miséricordieux aussi pour les païens. Parce que lui voulait qu'il soit rayé de la carte. Voilà. Donc c'est un magnifique livre. Nous allons faire la lecture. Jonas, chapitre 1. Il est bien divisé ce livre, voilà. Jonas, chapitre 1. Moi, j'ai une Bible d'études. Le thème du premier chapitre, c'est « Jonas fuit loin de la face de l'Éternel ». C'est dangereux de fuir Dieu, parce qu'on ne peut pas le fuir. Voilà. Il est écrit. « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Verset 3. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffa, il trouva un navire pour aller à Tarsis, en Espagne. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » C'est terrible. Les païens vont réveiller le croyant qui dort. Verset 7. Il s'est dit l'un à l'autre, « Venez, tirons au sort pour savoir qui nous a-t-il ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors il lui dit, « Dis-nous, qui nous a-t-il ce malheur? Quelles sont tes affaires? D'où viens-tu? Et quel est ton pays? De quel peuple es-tu? » Il lui répondit, « Je suis hébreu. Je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur. Il lui dit, « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait déclaré. Il lui dit, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme contre nous ?» Car la mer était de plus en plus orageuse. Il lui répondit, « Prenez-moi. » Il était courageux. « Prenez-moi, jetez-moi dans la mer et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors, ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Oh, Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas, le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent un sacrifice à l'Éternel. Ils firent des vœux. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir. Du livre de Jonas, c'est la miséricorde divine. La date de rédaction, c'est le 8e siècle avant Jésus-Christ. Jonas a vécu du temps de Jéroboam. c'était pas un roi formidable. Dans 2 Rois, chapitre 14, versets 23 à 27, il est écrit: la 15e année d'Amatsia, fille de Joas, roi de Juda, Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, régna à Samarie. Il régna 41 ans. C'est beau, c'est long. Il fit ce qui est mal, ça c'est terrible. Aux yeux de l'Éternel, il se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole de l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcé par son serviteur Jonas, le prophète fils d'Amittai, de Gath et Épher. L'Éternel vit l'affliction d'Israël à son comble, et l'extrémité à laquelle se trouvait réduit en esclavage les hommes libres, sans qu'il y eût personne pour leur venir au secours d'Israël. Or l'Éternel n'avait point résolu d'effacer le nom d'Israël de dessous les cieux. Il les délivra par Jéroboam, fils de Joas. Voyez, c'est vraiment une période difficile. Le roi n'était pas nickel. Il a fait pécher le peuple. Nous savons bien sûr pour nous que pour marcher droit, nous avons besoin du livre. Il a abandonné la parole de Dieu. Il a fait pécher son peuple. Mais Dieu a exercé la compassion parce qu'il a vu l'affliction. Donc le Dieu de la Bible n'a pas un cœur dur comme les hommes. Même lorsque les hommes l'abandonnent, il les cherche toujours pour les bénir. Donc il a vu l'affliction d'Israël à son comble et l'extrémité à laquelle se trouvait réduit en esclavage les hommes. Mais aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de femmes sont esclaves des passions diverses. Mais Dieu, dans sa grâce, attend. Il patiente pour que le pécheur revienne. Je voudrais rappeler quand même que le nom de Jonas signifie colombe. Ça, c'est beau. La colombe, c'est l'image du Saint-Esprit. Je pense que la colombe, vous savez qu'elle est blanche. C'est l'image de la pureté. La colombe, elle est délicate, douce. On peut la frister. Voilà. La colombe n'aime pas la zizanie, les querelles, les rancœurs, je veux dire. Donc, nous avons besoin de purifier nos cœurs pour que la colombe trouve sa place. Ah oui. Là où il y a la colombe, là-bas, la colombe, c'est le symbole de la paix. Donc, je suis convaincu, si nous travaillons dans notre cœur, nous permettons à la colombe d'établir ses dimensions dans notre cœur, dans notre famille et dans l'Église. C'est important. Nous avons besoin de la vie de la colombe. Beaucoup de peuples ont utilisé des colombes pour envoyer des messages. Quand en temps de guerre, on mettait un message si la colombe voulait partir quelque part. Mais nous avons une colombe, le Saint-Esprit, qui nous apporte le message divin pour le rendre vivant. Alléluia. Pour que nous ne soyons pas orphelins. Que dans la difficulté, soyons consolés. Quand nous sommes blessés, nous soyons restaurés. Quand nous sommes dans la solitude, nous puissions vivre dans l'abondance. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans le désert, que ça puisse jaillir. Donc, il avait quand même un nom extraordinaire, puisqu'il était le prophète de Dieu. Jonas. Il a eu le privilège d'être le premier missionnaire en pays étranger. Vous lisez la parole de Dieu, c'est extraordinaire. Donc, Dieu lui a donné un message court. Encore 40 jours, Ninive sera détruite. Nous regarderons. Mais lui, dans son cœur, il n'était pas droit. Parce qu'il voulait que les Ninivites soient pris de la carte. Il va à l'encontre de la volonté de Dieu. Parce que le Dieu de la vie, c'est le Dieu de miséricorde. Nous verrons dans la parole de Dieu que Jonas, quand on l'a passé par-dessus bord dans le bateau,
Dieu a envoyé un poisson pour lui donner une seconde chance. Frères et sœurs, Dieu nous donne toujours une seconde chance.
Donne une seconde chance. Et dans le ventre du poisson, Jonas, il a crié à Dieu. Même dans le silence, Dieu entend la prière. Oh, certainement, il était broyé par les six gastriques du poisson, le corps. Il a dit, oh Dieu, j'ai fait des bêtises, aide-moi, je vais obéir.
Et Dieu parle au poisson, le poisson le vomit. Une leçon extraordinaire. Si le poisson obéit à Dieu, que Dieu m'aide à obéir. Les animaux obéissent. L'ânesse a obéi à Dieu pour arrêter la démence de Balaam. Dieu avait parlé, l'ânesse. Alors ne soyons pas des ânes. Mais que nous soyons obéissants. Jésus va confirmer l'épisode historique du prophète Jonas et sa prédication. Ça, c'est extraordinaire. Les gens qui doutent de l'histoire, Jésus a mis le sceau dans Matthieu, chapitre 12, versets 38 à 40, il est écrit, « Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il est répondu, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Jésus confirme que le message d'histoire de Jonas est en préfiguration de la rédemption. Jésus est mort, il a été enseveli pendant 3 jours, le troisième jour, il est ressuscité. C'est un message qui est adressé à une génération méchante et adultère. Ça signifie que tous les méchants, les adultères, s'ils croient, Jésus est capable de les sauver. Donc, Jonas a été une figure du Christ. Le caractère de Jonas et la façon dont Dieu s'occupe de lui préfigurent dans ses lignes l'histoire de la nation d'Israël, de la maison d'Israël. Hors de ses frontières, elle est l'objet de causes des troubles pour les nations. Eh oui, Israël, l'objet des troubles des nations. Tout en étant un témoignage pour eux, les Juifs. Dieu les a bénis malgré leur incrédulité. Regardez partout, je veux dire. Des ingénieurs, des chercheurs, je veux dire. Il y a une marque de Dieu, comme je veux dire. Il est manqué. Rejeté, Israël était rejeté, et les standards miraculeusement épargnés et préservés. Jusqu'à ce jour, je suis convaincu que Dieu pose le regard sur Israël, malgré leur incrédulité. Dans la plus profonde détresse, elle fera appel au Seigneur et sera délivrée. Nous le verrons dans Zacharie. D'accord? Jésus, à un certain moment, sont seulement dans le désarroi qui vont crier à Dieu. Et Dieu va venir. Israël deviendra alors une nation missionnaire parmi les païens. L'histoire de Jonas va se répéter en terre païenne pour Israël. Parce qu'ils vont évangéliser les nations. Zacharie, regardons Zacharie, chapitre 8, versets 22 à 23. J'ai noté. Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ce jour-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous.
Gloire à Dieu.
Donc Dieu, dans sa grâce, n'a pas arrêté la miséricorde sur Israël. Il en est ainsi pour le croyant. Je voulais quand même rappeler le plan que nous allons considérer. C'est un livre magnifique, le plan. Premier point d'abord, la désobéissance de Jonas. Cette désobéissance, elle perdure dans le temps, et c'est dommage que beaucoup d'enfants de Dieu soient désobéissants, parce qu'il y a des conséquences dans la désobéissance. Deuxième point, nous regarderons que Jonas a été dans le grand poisson. Voilà. Il a été rejeté, parce que le poisson l'a mangé, l'a avalé. C'est dans le ventre du poisson qu'il va faire une prière. Donc la clé de la délivrance pour chaque croyant, c'est la prière. Voilà. Et puis, nous allons voir le plus grand réveil de l'histoire. Dieu a utilisé un prophète désobéissant. C'est encourageant. Nous sommes un peu obéissants. Toute la ville de Ninive. Moi, j'ai imaginé toute la ville de Manosque, à genoux. Oh, le maire, les gens dans la route. Pardon. Les prostituées, les gens, les choses, revenir vers Dieu. Les bandits. Mais c'est possible, Dieu est capable de le faire. Enfin, nous verrons la leçon extraordinaire que Dieu donne à Jonas. Si sa miséricorde, lui, il se soucie de son ruisseau, de son cabanon, de sa petite maison secondaire. Il était un peu rafraîchi. Et Dieu va envoyer quelque chose pour un verre, pour manger là, pour donner de l'ombrage, et lui, il n'était pas content. Et Dieu lui dit, tu n'es pas content à cause de ton ruisseau. Et moi, je n'aurai pas pitié de la grande ville de Ninive. Voilà. Donc, je suis persuadé que dans ce livre, il y a vraiment des richesses extraordinaires. Premier point, la désobéissance et la fuite. Il nous est dit, dans le premier verset, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittaï, en ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Verset 3, terrible verset. Et Jonas se leva pour s'enfuir. Moi, ça m'a saisi. Je ne sais pas ce que vous ressentez. Donc, il s'est levé, il a entendu. Frères et sœurs, si vous n'avez pas compris la volonté de Dieu, Dieu ne vous tiendrait pas rigueur. Il va revenir. La preuve, c'est que le petit Samuel dans le temple, Dieu l'a appelé, il n'a pas compris, il est parti vers Élie. Il a dit non, retourne te coucher. Comme Dieu sait quand on n'a pas compris, il va revenir à la charge. Il est revenu vers par la troisième fois. Oh, il a dit certainement ça doit venir de Dieu. Il dit écoute, quand tu entendras la voix, dis parle, ton serviteur écoute. Une des clés du croyant, c'est de savoir écouter. C'est une leçon que Dieu a donnée à un enfant. Nous faisons des bêtises parce que nous n'écoutons pas le Seigneur. Les enfants font des bêtises, des difficultés, parce que les enfants n'écoutent pas les parents. Les couples se déchirent parce qu'on n'écoute pas l'autre. L'écoute. Que Dieu me donne un cœur, une oreille sensible à l'écouter. Écoute. Donc, Jonas n'a pas été un bon serviteur. Il y a un frère que je suis allé, une dame que je suis allé visiter, il m'a dit, monsieur le pasteur, tu ne m'as pas écouté. Oh là là, c'était un choc pour moi. Elle était souffrante, comme il y avait beaucoup de monde, elle m'a dit quelque chose. Je n'ai pas prêté quand même. Elle souffrait vraiment. Et puis je me suis rendu compte. Et j'ai dit, je te demande pardon. Parce que c'est une femme qui souffrait. Elle ne m'a pas écouté, elle m'a dit quelque chose. Ça m'a échappé. Maintenant, j'ai pris que Dieu me donne un cœur qui écoute. Dans le regard, dans le contact. Parce qu'il y a des gens qui ne diront pas. Mais on va sentir. C'est sûr.
Après, bien sûr, on a passé un bon moment. Le Seigneur, dans sa grâce, l'a secouru. Je suis convaincu, écouter avant de parler est une clé pour la vie chrétienne. Une épouse qui écoute son mari va mieux la gagner, même s'il est inconverti. Et mari qui écoute sa femme, il va mieux gagner son cœur. Si nous écoutons Dieu, dans notre culture, on ne fait pas beaucoup d'anniversaires. Mais j'ai appris. Maintenant, je note dans mon calendrier telle date. Donc, j'ai dit aux enfants dans un coin, les enfants, vous savez quelle date nous sommes ? Elle a dit non. Je dis, c'est bientôt l'anniversaire de maman. Ah bon ? Oh. Moi, j'avais noté quelque part une petite carte et un bouquet de fleurs. J'ai dit un mot, chacun met un mot pour maman. Ça lui fera plaisir. Et puis quand tu l'as présenté, il avait les larmes. Je lui ai dit avec les mots qui sont venus. Merci maman, est-ce que tu t'es levé? Une reconnaissance des enfants. C'est important. Ce sont des petites choses qui sont importantes. En tout cas, ça, ce n'était pas dans ma culture. Donc je l'ai appris. Donc, écouter, savoir écouter, c'est très important. Jonas n'avait pas un cœur de serviteur. Le mot serviteur, ça signifie esclave. Un esclave ne sait pas ce qu'il veut. Il fait ce que veut son maître. Comme nous avons un maître bon, il nous laisse libres. Nous a délivré de nos chaînes, mais son but, c'est que nous soyons vraiment à son écoute. Je pense à ce verset qui nous dit, si j'étais attentif, ton bonheur serait comme un fleuve. Si nous étions attentifs. Peut-être Dieu peut dire quelque chose. Je me rappelle de cette histoire de cette dame qui avait un mari inconverti. Et son mari, l'évangile, vous me voyez promener. Écoute, toi tu peux aller à ton église puis ça te fait du bien, mais moi, j'irai jamais. Et alors, un jour il est revenu, elle m'a dit, elle était ravie. Mais il dit, qu'est-ce que tu vas me dire encore? Alors lui dit, bientôt, je vais partir. Partir où? Il y aura l'enlèvement de l'église. Ah oui. Alors lui dit, dans un lit, l'un sera pris et l'autre laissé. Oh! Il s'est rentré dans son cœur. Quand son ami se couchait, la nuit, comme il fait beau. Il s'est réveillé la nuit, parti dans, au balcon. Le mari, il n'y avait personne. Parti au salon, personne. La cuisine, personne. Oh, il est venu dans la chambre. Oh Dieu, je veux croire en toi. C'est mis à crier. Donc, la sœur lui avait donné une parole appropriée et par le Saint-Esprit, ça l'avait touché. Il demandait pardon à Dieu à genoux. Que Dieu ait pitié de lui, qu'il le prenne aussi. Voilà. Dieu a le pouvoir de faire ce que nous ne pouvons pas faire. Le dimanche, son mari est venu. Monsieur le pasteur, je suis vraiment étonné. Vous m'avez dit jamais mettre les pieds à l'église. Il s'est levé à la paix, il s'est converti. Il a donné son cœur à Dieu parce que cette sœur a su écouter le Seigneur. Je suis convaincu que écouter Dieu est une clé de la bénédiction. Donc la parole a été adressé à Jonas. Je rappelle aussi que la parole a été adressée à Adam. Dieu lui parlait. Mais le problème, c'est que lui, il a écouté l'ennemi de son âme. Et le serpent est venu pour enlever la parole. Mais la parole de Dieu, elle est vraiment une nourriture pour notre âme et nous aide vraiment à accomplir la volonté de Dieu. Dieu lui dit, lève-toi, va à Ninive. Les Ninivites, c'était des ennemis d'Israël. Mais Dieu avait un plan, un projet. Et Jonas, ça ne lui plaisait pas. Parfois, Dieu peut nous dire des choses qui nous déplaisent. Mais derrière des choses qui nous déplaisent,
Il y a la bénédiction de Dieu.
Eh oui. Jonas devait accomplir la mission de Dieu. On ne peut pas accomplir sa mission sans sa parole. La parole, c'est une feuille de route. Elle nous donne la direction. La parole nous donne la pensée de Dieu. Je pense aux magnifiques versets, le psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière. Donc, elle va nous éclairer. Je pense à ce magnifique psaume 32. Je vais vous lire le psaume 32. Vous le connaissez, le psaume 32. Si mes souvenirs sont bons, le verset 8. Psaume 32. Le magnifique verset. Psaume 32, verset 8. Il est dit: je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. La suite, il est dit: ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On le bride avec un frein et un mort dont on le part afin qu'il s'approche près de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Donc Dieu veut nous conseiller, Dieu veut nous instruire, Dieu veut nous montrer. Mais il nous donne un conseil: ne soyez pas comme un cheval. Vous savez, le cheval, ça va vite. Quand Dieu nous parle, il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Je rappelle aussi ce qu'a fait Pierre quand il a eu la vision de la nappe. Il a réfléchi: Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Avec les animaux, Dieu lui dit: tu les manges. Il a dit: j'ai jamais mangé rien d'impur. Quelques temps après, quelqu'un frappe à la porte. C'était des païens. Après, il a prié. L'Esprit de Dieu lui dit: bah, c'est moi qui les ai envoyés. Pour la première fois, il va partir chez les païens. Je me dis, ça va provoquer une grande bénédiction. Donc, quand Dieu nous parle, c'est qu'il y a une raison. Et derrière ce qu'il nous dit, il y a certainement une bénédiction. Et Jonas, lui, il va prendre la direction de Ninive, ou plutôt de Tarsis. Tarsis, c'est en Espagne. Enfin, il fait beau, il fait chaud, il y a des belles plages, je ne sais pas, je veux dire. Dans sa poche, il a l'argent. Eh oui. Soit parce que tout va bien, qu'on est dans le plan de Dieu. Soit parce que tout va mal, qu'on n'est pas dans le plan de Dieu. C'est dangereux, je veux dire, comme cela. Donc, il va payer son billet de bateau, il monte, il part en vacances. Mais les choses vont s'égarer. Un vent. Un vent fort. Tellement les païens vont se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils vont invoquer leur faux Dieu. Lui, il aurait pu invoquer le vrai Dieu. Non. C'est comme aujourd'hui. Il y a des événements tragique au Mali et tout, qu'on est des croyants, on se tient à genoux pour prier, pour le porter dans la prière. On va dire, ça ne nous concerne pas. Mais non, ça nous concerne aussi, je veux dire. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Dans le cale du bateau, il s'endort. Ça le regarde. Moi, j'ai trouvé vraiment ce texte, j'étais choqué. Lui, il dort. Les païens vont le réveiller pour lui demander d'invoquer son Dieu. Imagine que les inconvertis vous disent: si vous êtes chrétien. Un jour, on avait un frère, il était rétrograde. Il avait une femme gentille, formidable, qui a trompé sa femme. Et puis, un des collègues, il était païen, il lui dit: toi, tu dis que tu es chrétien, je connais ta femme. Comment ça se fait que... Ça a été vraiment terrible. Lui, il a baissé la tête. Parfois, le nom de Dieu, il est blasphémé à cause de notre comportement. Je me dis, et lui, il dort. Seigneur, ma prière, c'est qu'il puisse me réveiller. Reconnaître mon péché, revenir à lui. Il s'est endormi, bien sûr.
Mais le vent a continué, a continué, a continué. De telle sorte qu'il était pressé de dire qui il était, nous d'où il allait. Il a dit, c'est moi, la faute.
Là, il a été quand même courageux. En pleine mer, il a été balancé.
Vous avez quand même souligné quelque chose. Même dans les grandes crises, il y a toujours le secours de Dieu. Même quand on est tombé, on est loin de Dieu, Dieu nous donne toujours une seconde chance. Dieu envoie un gros poisson qui avale Jonas.
Il a pris conscience
et il a prié, Seigneur.
Et ce qui est beau, bien sûr, c'est la prière de Jonas. Et si je voudrais quand même arrêter sur la désobéissance.
Je rappellerai que la désobéissance a des conséquences tragiques.
1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre, première conséquence de la désobéissance. Vois ce que Dieu dit à propos de la désobéissance. 1 Samuel chapitre 15, verset 23. Si vous pouvez souligner ce verset et vous en rappeler, ça vous sera utile comme pour moi. Des magnifiques versets. On peut prendre à partir du verset 13 peut-être, comprendre la pensée. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel. » J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, « Qu'est-ce donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends ?» Saül lui répondit, « Ils les ont amenés chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu, et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. » Samuel dit à Saül, « Arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. » Et Saül lui dit, « Parle. » Samuel dit, « Lorsque tu étais petit, à tes propres yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël ? L'Éternel t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi d'Israël ? L'Éternel t'avait fait partir en disant, « Va, dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel ? Pourquoi n'es-tu pas jeté sur le butin ? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ?» Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoya l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, j'ai dévoué par interdit les Amalécites, mais le peuple a pris sur le butin des brebis de bœufs comme les prémices, ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. » Samuel dit, « L'Éternel trouvait-il du plaisir dans les holocaustes, dans les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Vois-tu, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphines. » Ça, c'est une parole forte. Avez-vous remarqué que Dieu considère la désobéissance comme la divination? C'est fort. En désobéissant à Dieu, c'est comme si nous consultons les ténèbres. La résistance égale idolâtrie. Donc, Jonas, c'était un idolâtre. Il a oublié Dieu. Il a fait ses choix. Mais Dieu a pitié de lui. Donc, je vais quand même vous me permettre de le dire, un chrétien peut être idolâtre. Eh oui. S'il vit dans la désobéissance. Celui qui est désobéissant à Dieu risque d'apporter le malheur sur les autres. les passagers. Ils risquaient de périr à cause de Jonas.
Il est devenu un risque pour eux. Ah oui.
Mais je rappellerai quand même dans Romains, chapitre 5, ici à la désobéissance, il y a aussi l'obéissance. Romains, chapitre 5, verset 19. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Nous savons, celui qui s'est rendu obéissant, c'est la personne de Jésus-Christ. Si je suis debout, c'est parce que mon maître a obéi.
Alléluia.
Je rappelle aussi la première marche de l'obéissance pour le croyant, c'est le baptême. Si nous aimons Dieu, nous avons entendu sa voix, nous sommes invités à nous engager par les eaux du baptême. Je suis convaincu, quand on obéit à Dieu, on attire sur nous la bénédiction. Jonas, en s'éloignant, en fuyant la volonté de Dieu, il attire le malheur sur lui, sur l'équipage. Il est devenu dangereux pour les autres. Et voilà. Quand on est dans un foyer, on s'éloigne vraiment de Dieu, on devient dangereux pour son foyer.
Oui.
Donc Jonas n'est plus la colombe, n'est plus le serviteur, il est vraiment loin et il s'endort. Voilà. Il est 8h15. Je veux quand même rappeler que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La première des choses, que Dieu nous rende obéissants aux choses simples. Je rappelais les choses simples de la vie chrétienne, la prière, la méditation de la Bible. Mais oui, gloire à Dieu. Les petites fidélités, l'offrande. Si nous réalisons que ce que nous avons vient de Dieu, donnons-lui ce que nous lui devons.
Mais oui.
Jamais nous ne manquerons. Dans tout le parcours de mon ministère, j'ai jamais vu des gens qui ont servi Dieu mendier. Dieu a toujours pourvu. Je suis convaincu, c'est une clé. Être fidèle dans les petites choses. Une autre petite chose, vous savez, le témoignage. Priez pour vos voisins.
Voilà.
Priez ce que vous côtoyez. Dieu les aime. Tout à l'heure, je me suis arrêté chez Joe. C'est en face. C'est un portugais. Je suis allé les saluer. J'ai dit, Joe, Dieu vous aime. Il vend des trucs comme ça. Si un jour vous voulez acheter quelque chose, et puis les prix, c'est pas très élevé. Le truc, il vend des choses ici à côté. C'est un groupe de portugais. Ah bon? Ah, je ne savais pas. J'ai dit, si. Je lui ai donné la revue.
La revue de Pentecôte, l'évangélisation.
Il a pris la revue. Et puis j'arrive tout à l'heure. J'ai acheté du riz. J'avais mon sac à côté. Mais il dit, Jean Bosco, j'en ai parlé à ma femme. Je veux prier pour nous ce soir.
Oh, c'est bon. Elle parle à sa femme. Déjà témoigné.
Il faut qu'on vienne les jours. Voilà. Je veux dire, je suis convaincu que Dieu veut nous bénir dans des choses simples. Dieu n'est pas compliqué. Faisons notre part et Dieu fera sa part. Jonas n'était plus la colombe. Il était vraiment loin, mais Dieu a eu pitié de lui. Voilà. Nous allons ce soir nous arrêter là. Voilà. Peut-être un verset. On ne peut pas fuir Dieu. Je pense qu'on ne peut pas fuir Dieu. Le psaume 135, 139 plutôt. Psaume 139. Vous connaissez ce chapitre 139. Psaume 139. Dans les premiers versets, il est écrit. Psaume 139. C'est un psaume de David. Éternel, tu me sondes, tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Ça, c'est beau. Tu pénètes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètes toutes mes voies. Lui, un jour, en déposant notre fils dans la CTI, dans son studio, parce qu'il y a la mixité, il y a les filles à côté, il y a les garçons. Je dis à notre garçon, je dis, tu sais, David? Il dit, oui, papa. Je dis, nous partons. Il faut que tu saches que Dieu voit tout ce que tu fais dans ta chambre. Parce que j'avais vu une jeune fille qui regardait d'une manière bizarre. Voilà. Mais dis oui, papa, je sais. Mais ça me le dit, je sais que Dieu me voit. Je ne peux rien lui cacher. Voilà. Et oui, voilà, je dis. Donc c'est important de nous rappeler que ce que nous faisons dans le secret, Dieu le voit. Quand on se lève, quand on se couche, Dieu voit tout. Puis les derniers versets de ce chapitre, ils sont magnifiques. Voilà ce que dit David. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, connais mes pensées. Regarde si je suis une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ça, c'est beau. Donc, que Dieu puisse sonder notre cœur pour faire des corrections. Vous savez, le GPS, quand on a le GPS, il faut on fait des mises à jour. Quand c'est vieux, on fait le mise à jour. Eh bien, j'ai besoin de faire le mise à jour devant le Seigneur. Alléluia. J'ai rencontré une... J'étais chez le dentiste. Alors, il faisait son travail. Il me dit, monsieur Kinyadel, qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, je suis pasteur. En bon, c'est quoi? Alors, je lui ai parlé pendant que j'étais de me soigner. Il me dit, arrête! Tu vas me convertir! Je dis, c'est pas moi. Je dis, Dieu vous aime. Je dis, Dieu aime les médecins, les dentistes. Ah oui. J'ai dit, vous avez des enfants? Dieu veut les bénir. J'ai vu les larmes dans ses yeux. Je dis, je vais prier pour vos enfants. Je ne savais pas que j'avais touché le point où je lui ai dit, oui. Elle fait son travail, elle fait son métier. J'ai dit, mais Dieu veut vous aider. Voilà. Elle a des enfants qui sont. Voilà, je lui dis. Et voilà. Elle est vraiment gentille. Mais je lui dis, puisque la gentille, Dieu veut la sauver. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il me pose des questions. Moi, je rebondis. Je suis convaincu que le Dieu de la Bible, c'est le Dieu tout-puissant qui connaît notre besoin. Eh oui, voilà, nous nous arrêtons sur cette pensée.